Je ne parle pas de tradition, je parle de vie chrétienne, avec un grand V. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. La première chose que Paul dit à Timothée, il nous parle de la source divine. Il dit, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, c'est-à-dire puise. Et parce que tu vas puiser, tu pourras agir, prendre et faire. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, au verset 7 à 8, Jérémie 17, verset 7 à 8, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Amen. » Pour tenir bon, pour être un chrétien digne de ce nom, être un chrétien à la gloire de Dieu, il n'est pas question ici d'essayer de chercher à rechercher des ressources ailleurs. Mais ma source est en Christ, et rien qu'en Christ. Et ce n'est que lorsque je comprends et que je saisis ces choses que je peux grandir. Il parle des forces, tes forces. Ce n'est pas une force naturelle, laissant ma force personnelle, mais c'est une force qui nous vient du ciel, la force divine. La priorité, c'est que Christ soit au centre de mon existence et qu'il devienne et qu'il soit et qu'il demeure ma priorité. L'apôtre Paul parle de témoins en Christ, il dit « Tu as suivi mon exemple ». Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des exemples pour nos familles en premier. Vous serez témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux bouts extrémités de la terre. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, donc, à être des témoins de Christ. Tu as suivi mon exemple, et de donner envie aux autres. Tu as suivi mon exemple. Timothée a vu Paul, sa manière de vivre, sa manière de faire. Et sa manière de vivre et sa manière de faire a motivé Timothée à vouloir faire pareil, à vouloir le suivre. Lorsque on comprend que celui qui nous dit les choses, nous les dit pour notre bien et que on voit qu'un petit enfant, lorsqu'il voit ses grands-parents, par exemple, son père et sa mère, qui sont des exemples à ses yeux, son désir, ce sera de faire la même chose. Ça sera son désir. À l'inverse, s'il voit son père et sa mère ne pas être un exemple, il fuira cet exemple. Il fuira son exemple. Il dit... Il t'a été confirmé par de nombreux témoins, c'est-à-dire son exemple, il t'a été confirmé par de nombreux témoins. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement et seulement ce que je dis qui est important, c'est aussi ce que l'on dit de moi. Pas pour mon ego, pour dire « oh là là, rien à voir avec ça ». Mais qu'est-ce qu'on dit de moi ? Au début que nous sommes arrivés sur Martigues, ça le fait moins maintenant, parce que j'y prends plus attention, parce que j'y suis habitué, mais je crois que c'est surtout parce qu'on en parle moins. Les années passant, Monsieur Mazella ceci, Monsieur Mazella cela, dans le bon sens du terme, je le dis, bien sûr. Un témoin qui a été de ces hommes lui et tant d'autres, des hommes et des femmes de parmi nous, parmi les chrétiens et les chrétiennes, qui ont été comme des pères et des mères. Des hommes qui, pour lesquels nous n'étions peut-être pas toujours d'accord sur certaines façons, parce qu'ils avaient leur tempérament, ceci, cela, mais qui, au fond, étaient des exemples, parce que leurs yeux étaient rivés sur Christ. Et cela nous responsabilise. Puisque Paul dit à Timothée, ce que tu as ainsi appris, transmets-le. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à transmettre ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu a fait dans notre vie. Il y a plusieurs façons de transmettre. Il y a la mauvaise transmission et la bonne. Trop de gens ont été écœurés. Trop de gens ont quitté. J'ai eu un oncle au téléphone il y a quelques temps. Et en fait, c'est un homme qui a 75 ans maintenant au moins, dans ces eaux-là. Et il me parlait de son enfance. Comme quoi, vous voyez que parfois on peut vivre des choses qui sont compliquées dans son enfance et ça va nous poursuivre toute notre vie. Et en fait, il a eu une dent contre la religion et peut-être pas forcément contre Dieu, mais contre la religion parce qu'il a vu ce que l'on était capable de faire au nom de la religion. Il a eu une mauvaise transmission. Nous sommes appelés donc à transmettre, et pas n'importe qui. L'apôtre Paul dit, il faut que tu transmettes eh bien, ce message de l'Évangile, transmets-le comme tu as vu le témoin que j'ai été, et ce que tu as entendu de moi, et transmets-le, mais pas n'importe qui. Transmets-le à des hommes fidèles, à des hommes qui ne vont pas rapporter ce qu'ils auraient envie de rapporter. Moi, je pense que, on n'en a que faire du « moi, je pense que ». Ce n'est pas ce que moi, je pense qui est important, c'est ce que dit la Bible. J'ai déjà pris cet exemple, et tant pis si je le reprends, mais lorsque j'aime beaucoup m'informer, alors c'est à la radio ou c'est à l'heure du journal, j'aime m'informer. Et je me moque complètement ce que le journaliste pense. Moi, je pense que ça ne m'intéresserait pas. Ce que je veux savoir, objectivement, c'est ce qui se dit, ce qui doit être transmis avec fidélité. La parole nous enseigne qu'il ne faut rien rajouter et rien retrancher de sa parole. La parole de Dieu n'est pas ma parole, c'est sa parole. Et je ne suis qu'un transmetteur. Et je dois être un transmetteur fidèle. Ce n'est pas valable que pour le pasteur, hein. C'est valable en fait pour chacun d'entre nous. Dès que nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons transmettre parmi nos familles, parmi notre voisinage, parmi nos collègues de travail, et qui sait, parfois il y a des emplois, c'est pas piquer des verres. Les gens qui sont dans certaines entreprises où c'est une... Ce sont des très, très virils. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand c'est très, très viril, ces hommes ont besoin aussi d'entendre parler de l'Évangile et de voir des gens qui vivent l'Évangile. Des hommes fidèles. Et nous devons, à notre égard, frères et sœurs, être des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles à la transmission de l'Évangile qui nous a été donné par nos pères. Et nous devons être, il dit, dignes de confiance. Dignes de confiance, capables d'instruire. Et non pas un homme comme Diotref, qui n'avait qu'une ambition, c'était d'être vu des uns et des autres. Ce Diotref, nous le retrouvons dans la troisième épître de Jean, au verset 9, où il est écrit, « Celui qui dit qu'il est... » Non, ça c'est la première, la troisième. Il est écrit au verset 9, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotref, écoutez bien, hein, c'était un responsable d'Église, hein, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ce Diotrephe était un homme qui avait écouté le message de l'Évangile, qui avait entendu, qui était un témoin et qui, en fait, était un mauvais transmetteur. Il était devenu comme une forme de gourou. Un homme qui voulait contaminer les uns et les autres. Il n'était pas capable d'instruire, mais il avait son orgueil et son ambition. L'apôtre Paul va donner trois exemples. Le premier exemple, il parle du soldat. Il dit, au verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Un jour, il y a un colonel ou un général qui disait à la télé en quelques mois, en parlant d'un haut responsable de notre État, « Il n'a pas fait le service militaire, il ne connaît pas, il ne sait pas. » Il a le droit de ne pas savoir, il a le droit. Mais je vous assure que il y a deux états d'esprit. Ceux qui ont fait le service militaire, et encore, peut-être toucheront un peu du doigt, mais je vous assure qu'il y a deux états d'esprit entre le civil et le militaire. On a trop méprisé le militaire en disant « Tu parles anglais ? Oui, alors tu colleras des timbres. » Ça n'a rien à voir avec ça. Ou alors, pour montrer que le soldat est bête, discipliné, oui, il doit l'être, mais bête, non. Allez, vous faites un trou là, et qu'est-ce que je fais, chef ? Tu rebouches le trou. Ça, c'est des caricatures qui sont méprisantes. Mais le soldat a bien des choses à nous montrer. Le soldat s'engage volontairement. Voilà. Le soldat s'engage volontairement. Il veut. Le soldat va se soumettre à une discipline. Une chose que l'on va apprendre aux soldats alors qu'ils viennent de tous les quatre coins de la France, avec leurs différentes régions, avec leurs différentes cultures, leurs différents caractères, on va leur apprendre une chose, la cohésion. Frère d'armes. Et même s'il a une tête qui ne me revient pas, c'est mon frère d'armes. C'est-à-dire que s'il est blessé, je vais le récupérer. Je l'aide. Et ainsi, c'est dans la difficulté qu'on apprend à être solidaire. Mais quand on est civil, on ne peut pas comprendre ces choses. Et ce n'est pas du mépris. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris. Donc, on n'a pas appris, on ne peut pas savoir. Et le soldat, on va lui inculquer une chose. On va dire, c'est la patrie, ta patrie, et tout ce qui est en relation avec les intérêts de celle-ci. Et le soldat va se discipliner à une règle. Il est hors de question que le soldat... Tout à l'heure, j'ai écouté, je cherchais un stylo, je n'avais pas de stylo sur moi, je suis allé en récupérer un. On a chanté un chant, et parfois, lorsqu'on chante des chants, je vous assure qu'il nous faut faire vraiment attention à ce que l'on chante. Je vous invite même, si vous n'êtes pas capable de vivre ce que vous chantez, alors c'est plus sage de ne pas le chanter. Vous avez peut-être trouvé que je suis dur, mais c'est une réalité. Nous avons chanté « Je plie le genou ». J'abandonne tout. Le militaire qui s'engage, il prend ses effets civils. À la caserne, il est en dehors de s'habiller comme ça. Hein. Sauf s'il part en permission, mais passons ces choses. Il est hors de question d'avoir sa petite boucle d'oreille, de faire ce que je veux, d'avoir les cheveux longs ou d'avoir, je ne sais pas, de me faire un piercing. Non, non, tout le monde est d'équerre. Celui qui s'engage à l'armée, et en particulier dans la Légion étrangère, ce sont souvent des garçons qui veulent refaire une vie. Ce sont souvent des garçons qui ont un passé. Et ils viennent de différents pays du monde. Je crois qu'il y a 130 et quelques nationalités. Bon, ce n'est pas important. Mais pour dire, ce sont des hommes qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre une chose, être frères d'armes, avoir un seul objectif, peu importe leur patrie, leur mission, c'est la Légion étrangère. Et le pays qui les accueille font changer leur nom et leur donne un nouveau départ dans la société. Et ne demandez jamais à un légionnaire ce qu'il a fait jadis. Ça ne se pose pas comme question. Et normalement, il ne vous répondra pas. Le légionnaire, le militaire, a une discipline de vie qu'il doit avoir. Et son regard est fixé sur son responsable, sur son chef. Voilà où l'apôtre Paul nous conduit en disant, mais mes frères et sœurs, si nous voulons marcher avec Dieu, le chef de notre vie, c'est Christ. Vous voyez, il y a une grande différence entre le civil. Le militaire, lui, s'engage pour la patrie. Le civil, lui, il ne regardera que ses intérêts. Il travaille pour sa maison, il travaille pour ceci, il va travailler pour cela, pour ses vacances. Mais c'est légitime, ces choses. C'est tout à fait légitime. Mais pour vous montrer ici que le militaire et le civil n'ont pas du tout le même état d'esprit. Le militaire s'engage corps et âme en disant, voilà, c'est mon objectif. Le civil, lui, s'engage pour lui-même. Le chrétien, qui veut vivre en Christ, s'engage corps et âme pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il y a tant de frères et de sœurs qui sont persécutés dans le monde. Il m'est arrivé parfois de refuser le baptême à des gens. Les gens veulent vraiment s'engager. Vraiment. Et quand on parle avec eux, eh bien on s'aperçoit, et surtout je les pousse à constater d'eux-mêmes, parce que ce n'est pas le tout que moi je leur dis. Il y a ça qui ne va pas, ce n'est pas ça qui est important. C'est surtout qu'eux puissent se rendre compte que oui, c'est vrai, ça ne va pas. Qu'ils en prennent conscience. S'engager avec Dieu, ce n'est pas simplement passer un bon dimanche en disant « Voilà pourquoi je m'engage avec Jésus et ceci, cela. » C'est une vie d'engagement, frères et sœurs. Je deviens un soldat de Jésus-Christ qui ne doit plus compter sur lui-même. Il est écrit « Il faut que je diminue et qu'il croisse. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même ? En tant que chrétienne, en tant que chrétien, je dois dire, je suis un soldat de Jésus. Excusez de prendre cet exemple-là, encore une fois, un légionnaire. J'avais ma vie avant de débauche, ou pas d'ailleurs, on n'a pas besoin de venir à Jésus parce qu'on était un grand débauché. Hein. On peut avoir été quelqu'un d'avoir une très très bonne éducation, et ceci, cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une demande pour avoir un certificat de, comment on appelle ça, un casier judiciaire. Il y a une ligne. C'est que j'ai rien fait. Mon casier est vierge. Mais il m'a quand même fallu venir à Jésus. Hein. Et le légionnaire, c'est celui, nous sommes à la limite à la légionnaire, eh bien c'est quelqu'un qui vient du civil, qui s'engage dans l'armée en disant « Je veux changer d'identité. Je veux une nouvelle chance dans ma vie. » Et mon objectif, eh bien, c'est, oui, je change de nom. La parole nous dit, tu changes de nom. Et je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à celui qui m'a engagé. Et puis, si cela vous plaît de ne pas rappeler votre passé à la légionnaire, libre à vous de dire, mon passé n'est pas utile à rappeler. Il n'y en a qu'un qui le connaît. L'apôtre Paul va donner un autre exemple concernant l'athlète. Au verset 5, il dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » L'image de la quête, eh bien, c'est l'effort, c'est l'entraînement, c'est l'endurance, c'est la volonté, dans les règles, de peur d'être disqualifié. Le mot athlète rend le verbe athléo qui signifie concurrencer, contester, lutter, se battre. Et Paul évoque ici une lutte qui exige une grande détermination. Le seul objectif, c'est de gagner. Tous ces braves que nous allons voir dans 88 jours, je crois, se mettre sur la ligne pour faire le 100 mètres. Vous savez que ça se joue à des centièmes de seconde. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ils sont tous au même niveau. C'est ce qui fait, ils ont été sélectionnés, c'est ce qui fait qu'ils sont tous là sur la ligne blanche. Et c'est à quelques centièmes de seconde qui fera la différence. On pourrait dire, ils méritent tous la médaille d'or. Mais s'il y en a un, pas dans le 100 mètres, dans le 60 peut-être, s'il déborde de son couloir, on doit courir dans son couloir, s'il déborde, disqualifié. S'il part avant le starter, vous savez, à vos marques, prêt, s'il part avant parce qu'ils sont tellement sous pression, pas de problème, tu reviens à la ligne de départ. Mais si tu recommences une deuxième fois, si c'est le même, certainement qu'il sera disqualifié. Il arrive que parfois il y a des sportifs qui sont plus doués, qui surpassent les autres. Et parfois ce sont ceux qui ne les surpassent pas, qui ne sont pas sur le devant de la scène, qui sont les gagneurs. En fait, c'est une question de détermination et de persévérance. Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Le lièvre était entraîné, et la tortue, le lièvre était sûr de lui. La tortue était persévérante. Elle avait un objectif. À l'époque de Paul, les Jeux grecs qui se sont poursuivis pendant des siècles sous le règne des Romains, chaque participant devait satisfaire à trois critères. Trois critères. Le premier critère, c'était le critère de la naissance. Il devait être de naissance grecque. Le deuxième critère, c'était le critère de la formation. Il devait se préparer au jeu pendant au moins 10 mois. 10 mois. Et s'il s'y engageait, en prêtant serment devant la statue de Zeus. Et le troisième critère, c'était le critère de la compétition, il lui fallait respecter les règles à propos et à un événement donné. La transgression d'un seul de ces critères lui valait d'être automatiquement disqualifié. Les trois critères que nous pourrions donner pour nous, frères et sœurs, le premier, c'est être né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire ce que ça veut dire. Avant, c'est avant. Maintenant, c'est maintenant. C'est plus la même chose. Ça ne doit plus être la même chose. Ce qui était pour moi des choses qui étaient un peu... Aïe, 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 c'était... Oh, frère, je suis né de nouveau, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Et ce n'est pas facultatif. C'est quelque chose qui est une réalité en soi si nous voulons aller au ciel. Le jour où le Seigneur viendra nous chercher, pas de problème, s'il vient nous chercher, c'est que c'est OK. Mais si avant, si le Seigneur tarde à venir, et ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de compte à rendre, hein, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu, en plus. Mais nous serons emmenés auprès du Seigneur. Mais si le Seigneur tarde à venir et que nous mourrons avant, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Si demain vous allez faire des analyses de sang et que vous allez voir l'oncologue, votre généraliste vous envoie vers le spécialiste, l'oncologue, et que celui-ci vous dit, Monsieur, vous n'avez plus que pour 6 mois à vivre. Quelle sera votre réaction? C'est un choc, hein? C'est un choc. On va dire, voilà, maintenant, bon. Mais que ça soit un choc dans un premier temps, ça semble tout à fait logique. C'est étonnant, ça vous surprend comme ça, mais quelle sera votre réaction dans les 6 mois?
Seigneur.
Arrêtez de pleurnicher et remettez de l'ordre dans la vie. Ce que Dieu veut pour nous, mes frères et sœurs, c'est d'avoir des enfants. Moi, tant pis, ils sont là, c'est pas grave. Je suis fier de mes enfants. Mais si un jour, il y en a un qui se loupe, je ne vais pas dire, oh mon chéri, c'est pas, oh ma chérie, c'est pas grave, papa, il t'aime. Je dirai, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est une question de vie ou de mort. Vous vous rappelez de cet homme qui s'appelait Élie, qui n'était pas le prophète Élie, qui était un homme pesant par l'âge, et il a appris les mauvais propos que ses fils faisaient. Ils allaient devant la table de la tente et ils envoyaient leurs serviteurs avec des fourchettes pour piquer eh bien, la graisse, tout ça, les aliments qu'on donnait à Dieu. Et on disait, mais attendez, on va vous les donner, mais attendez. Non, donne, sinon on prend avec force. Excusez du peu, il couchait avec les femmes. Et ça se savait, tout le monde le savait. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mes petits, j'ai appris les mauvais propos, c'est pas bien ce que vous faites. Vous savez ce qui s'est passé? Ses fils, ils sont morts. Ses fils sont morts. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons, frères et sœurs, prendre conscience que nous sommes appelés à être des athlètes. Nous sommes nés de nouveau. Quand il était question de la formation du deuxième point pour les athlètes, il est dit qu'ils devaient se préparer au jeu pendant au moins 10 mois. Et s'y engager. Notre responsabilité, c'est de nous montrer fidèles dans l'étude et dans l'application de la parole de Dieu, mais pas simplement aux yeux de tout le monde. Vous savez, je vais vous dire, c'est pas devant tout le monde que ça compte, hein, le plus. La meilleure preuve, c'est quand je suis tout seul. C'est même pas devant ma femme, mes enfants et toute la semaine, hein. C'est quand je suis seul, comment je vis ma foi avec Christ? Quand je suis tout seul, quand je suis en déplacement, est-ce que je donne juste une apparence, une image, voilà comment il faut être? Ou est-ce que je vis ce que je dis? Et même si je savais que j'étais sur une île déserte, je ne marche pas pour les autres. Je marche pour moi, à l'égard aux yeux de Dieu, voulant me soumettre à la discipline que la parole me demande. Et le mot discipline, ça fait mal. On n'aime pas le mot discipline. Plus ça va, moins on aime la discipline. Les enseignants, ils donnent de la discipline. Maintenant, il faut qu'ils fassent attention parce que il fut un temps. Alors, je ne dis pas que c'était bien ce que je veux dire. Hein. Il fut un temps, les plus anciens parmi nous, ils ont connu ça. Moi, je n'ai pas connu. Fais voir tes doigts. Et là, un coup de règle sur les doigts. Maintenant, Tu grondes ton petit, tu signes pas le papier, on vient te tabasser. Parce que le pauvre petit, son papier n'est pas été signé, et parce qu'il n'a pas pu faire la sortie, parce qu'il y a une décharge. Et les parents qui ne se sont pas responsabilisés, ils mettent ça sur la responsabilité sur le prof. Le mot discipline, on n'aime pas. Mais pour autant, frères et sœurs, la discipline, c'est quoi? C'est se mettre sous la discipline. Nous sommes appelés à nous mettre sous la discipline de Christ. Et le troisième point, c'est quand il est question de, il fallait respecter les règles à propos d'un événement donné, eh bien, nous, c'est vivre selon les normes divines que Christ a établies pour les disciples, pour ses disciples. Et puis l'apôtre Paul va donner donc un troisième exemple, puisqu'il parle du cultivateur. Il dit, il faut, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le travail de la terre, c'est quelque chose de difficile. Alors, je ne vais pas m'arrêter avec les moyens technologiques que nous avons maintenant. Ici, il y a, dans les régions du Sud, il y a peu de matériel agricole, pas peu de matériel agricole, peut-être du côté de Arles, ils ont des ventes de gros engins, parce que, bon, voilà, il y a le riz et toutes ces choses-là. Mais par ici, bon. Mais ils ont des moyens, avec le GPS et ceci, cela. Mais ici, je voudrais m'arrêter à une certaine époque où c'était à la main. Le laboureur, lorsqu'il arrivait, le paysan, lorsqu'il arrivait dans son champ, il y avait des herbes et des mauvaises herbes, qu'on appelle des mauvaises herbes, qu'il appellera des mauvaises herbes, qui en fait ne produisent rien, si ce n'est que de la mauvaise herbe. Et avec ces bœufs, eh bien, il y avait une charrue. La charrue, c'est une grosse lame qui pénètre en terre et qui, en fait, pour donner une idée, elle déchire la terre, elle ouvre la terre. Le tracteur d'aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs charrues, derrière plusieurs, on appelle ça des socles, il y a plusieurs socles, 6 ou 8 peut-être, et puis certains même en mettent devant. Donc ça fait des mètres et des mètres labourés en même temps. Mais lui, il n'a pas la capacité d'avoir plusieurs socles. Un socle, il laboure. Et le but de l'agriculteur, c'est de déchirer la terre. Et d'avoir un seul objectif, que son sillon soit droit. Lorsque vous regardez les terres agricoles, les sillons ne sont pas comme ça. Hein. Ou alors l'agriculteur ne serait pas en état. L'agriculteur, vous regarderez dans des reportages, l'agriculteur, il roule dans son champ, toujours en ayant la tête comme ça, en arrière et devant, derrière, devant, pour qu'il puisse suivre le même sillon. Labourer, ça demande du travail physique. Épuisant. Et selon les périodes, c'est étouffant, la chaleur étouffante, le froid, le gel, l'humidité. Lorsque j'étais ado, j'avais été chez des paysans et on avait été récupérer les pommes pour faire du cidre. Alors il y a bien des machines qui sont là pour piquer les pommes et ça, voilà. Les pommes, on les ramassait, on était à genoux et on ramassait les pommes et on remplissait des sacs. L'humidité, le froid. L'agriculteur se soumet pas à ses règles. L'agriculteur va se soumettre aux règles de la saison. Il y a des règles, mes frères et sœurs, pour marcher avec Dieu. Si nous voulons porter du fruit, il y a des règles. Ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Dans Proverbes 20, verset 4, il est écrit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ben, c'est normal. Il fait froid, il pleut. » Tiens, d'ailleurs, excusez, hein, je vous le dis clairement. Hein. Tant pis si dimanche vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Hein. De manière, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour être votre pasteur. Combien de fois, il fait froid, il y a de la pluie, il y a du vent, et il fait chaud. Ici, il y a la clim. Vous montez dans votre voiture, il y a la clim. Vous sortez de votre voiture, oh, vite à l'église, il y a la clim. Combien d'excuses nous trouvons pour ne pas suivre les règles de Dieu? Combien de règles? Et combien de fois de gens parmi le peuple de Dieu pleurent, mais en fait, désolé, mais ils ne payent que les conséquences de leur propre volonté. Parce qu'ils ne veulent pas suivre les règles, pas du pasteur. Hein. Moi, les règles du pasteur, je ne vais pas à l'église pour suivre le règlement intérieur du pasteur, ça ne m'intéresse pas. La règle que je veux suivre, et la seule règle que je veux suivre, ce n'est pas celle du pasteur, ou selon, à la guise du pasteur, selon son caractère, selon ses origines. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que Paul demande non plus. Paul disait, suivez mon exemple, mais pourquoi? Il disait, suivez mon exemple comme moi, je suis celui de Christ. Il ne disait pas, suivez mon exemple, et puis taisez-vous, faites comme moi je fais, c'est tout. Non, il donne l'exemple en disant, faites comme moi je fais, parce que je regarde à Christ.
Et la seule règle que nous devons impliquer, mettre en application dans notre vie, c'est celle de la parole. Trop de choses sont du laisser-aller. Trop de choses sont... Des fois, je suis étonné d'entendre certaines choses. Je tombe des nues. Oh, mais le Seigneur... Là, tout à l'heure, on a chanté. Ça n'a rien à voir avec les jeunes, mais moi, ça me fait penser à certaines choses quand on chante. C'était bien, les chants. Mais les paroles. Le Seigneur est bon. Oui, il est bon, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Mais il est bon, mais il n'est pas gentil. Hein. Jésus n'est pas gentil. Jésus est bon. Sa bonté, son amour, sa grâce l'a conduit à mourir à la croix. Être gentil, c'est parfois, ça peut être considéré comme une forme de faiblesse. C'est mes enfants, je dis rien. Papa, il est gentil, il nous laisse faire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas de la gentillesse, ça. C'est de l'irresponsabilité. Ne rien dire, ce n'est pas de la gentillesse. C'est ne pas prendre ses responsabilités. Jésus n'est pas gentil. Jésus est amour. Mais l'amour n'accepte pas tout. Ah, ma chérie, je t'aime. Hein. Oh là là, mais t'étais où cette nuit? Oh, ben j'étais voir la voisine. Ah, je t'aime quand même. Mais vous croyez que ça, c'est de l'amour? C'est pas de l'amour, ça. Seigneur, je t'aime, mais je fais un peu comme j'ai envie. Mais ne riez pas, hein. Parce qu'on peut prendre des cas grossiers, grotesques. Mais combien de fois, parfois, c'est très subtil. Seigneur, je t'aime, je t'adore, merci pour ton pardon. Mais si moi, je ne veux pas pardonner, je ne suis pas en équation. Hein. Il y a des règles. Et regardez comme quoi Dieu n'est pas gentil. Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Quelqu'un de gentil aurait dit, bah, c'est pas grave si tu ne pardonnes pas, moi je te pardonne, c'est pas bien grave, t'en fais pas. Mais Dieu n'est pas gentil, il est bon. Être bon et être amour, c'est donner sa vie pour l'autre. C'est donner sa vie pour l'autre. Quelqu'un de gentil ne donnera pas sa vie pour l'autre. Parce que la gentillesse est fluctuante, selon mon humeur. Frère, tu peux me donner? Tu veux pas? Bon, je serai plus gentil avec lui. Parce qu'il ne m'a pas donné. Demain, je me loupe. Dieu continuera à m'aimer. Mais ce n'est pas parce que Dieu va continuer à m'aimer que Dieu est d'accord avec moi. Il me dira, il faut que tu viennes à la croix. Et si je ne reviens pas à la croix, je suis perdu. Proverbe 24, versets 30 à 31. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol. Et son mur de pierre était écroulé. Hier, j'ai regardé un peu un reportage. J'aimais bien parce qu'il parlait de vieux véhicules. Alors je regardais. Vous avez vu sur la première? Il y en avait un qui avait eu l'héritage de sa famille, un château. Ses sœurs avaient récupéré les terres, lui, il avait récupéré le château. Il y avait un reportage qui parlait de lui, il avait 5 ou 6 ans, et le petit, déjà, il disait qu'il enlevait les herbes, ceci, cela. Bon, c'était un châtelain, mais bon. Ah. Et là, il en avait 65, qu'est-ce qu'il faisait? Il continue à enlever les herbes. Et à un moment donné, il est auprès de la muraille ou du château, et puis il est en train de gratter du lierre. Et un tout petit morceau de joint. Il dit, vous voyez là, c'est du joint de la pierre. Et il disait, vous voyez, si je continue à l'enlever, je vais enlever tout le joint et le mur. Voilà. Le paresseux lui dit, oh, le travail fait son œuvre. Il y en a un qui n'est pas du tout copain avec moi. Ça commence à faire quelques années maintenant. Mais alors, il ne m'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ce n'est pas grave. Chaque année, j'y retourne. Chaque année, je recommence. C'est le figuier qui était juste là. Il y avait un grand figuier, enfin un grand, un figuier. Jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'au bord du mur, le mur était tout fissuré. Je dis, oh, toi, je suis sûr que c'est le figuier. Alors un jour, j'ai pris, je crois que c'était la tronçonneuse, et voilà. Mais il s'est vengé. Parce que chaque année, il fait des rejetons. Et chaque année, je coupe les rejetons. Mais si je laisse faire, un jour, ça mettra le temps que ça voudra. Mais c'est sûr que ça arrivera, le mur sera complètement éboulé. Mes frères et sœurs, nous avons aussi une responsabilité, c'est de ne pas être paresseux par rapport à la parole. En fait, pour être chrétien, il faut avoir beaucoup de courage. S'engager en tant que chrétien, ce n'est pas simplement le dimanche matin, c'est « je dois vivre Christ ». Lorsque je passe dans la rue, lorsque je parle aux gens, lorsque je n'ai pas besoin de dire « je suis chrétien !» Ah bon ? Ah bon ? Ah, si on vous dit « ah bon », alors là, ça craint. Hein. Mais ça vous fait sourire, mais je suis sérieux. Si on vous dit « ça craint » parce qu'on n'a pas remarqué en vous qu'il y avait quelque chose que je parle... Alors bien sûr, si vous passez dans la rue, vous allez voir la boulangère, « bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». Elle ne va pas dire « Ah, je sens l'onction !» Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Quoique, ça pourrait. Hein. Mais lorsque je parle, par exemple, lorsque on travaille avec des gens, ou quand on côtoie les gens, je ne sois pas obligé d'afficher « Je suis chrétien !» et que les gens vous disent « Ah bon ?» parce qu'ils ne l'auraient pas remarqué. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui change par rapport à eux et à vous. Parce que ce sont des civils, et vous êtes un militaire, ils vous considèrent comme un civil, vous avez compris la pensée. De se dire, voilà, je sais que cette personne, c'est une bonne personne, et qu'on ne lui fera pas faire n'importe quoi, on ne lui fera pas dire n'importe quoi. Je sens que cette personne, elle a une discipline de vie. J'ai envie de suivre son exemple. Transmettre. Le désir. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu n'es pas comme les autres. Les autres, ils vous diront peut-être, tu es gentil, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quoi ton... Dis-moi ce que... Il y a un truc, tu as un bon caractère. Ouh, je connaissais mon caractère. Ah bon? Mais là, tu t'énerves pas, tu es ceci. Qu'est-ce qui se passe? Laissez les gens venir à vous pour dire « Je vais te transmettre un secret. Christ, il est ressuscité. Jésus est vivant. » Il y a plein de gens, je suis sûr qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et de danser, de faire ci, de faire ça, de mettre de Jésus un petit peu pour faire mes petites histoires. Ah, Jésus est bon, alléluia, on accepte tout le monde, et tout le monde est bienvenu. Et... Non, non, tout le monde n'ira pas au paradis, hein, dans les pèses à Paul Naref, à ceux qui l'écoutent. Hein. Tout le monde n'ira pas au paradis. Pour entrer au paradis, il y a une règle. Et ce n'est pas simplement « Dieu pardonne tous mes péchés », oui. Mais pardonner, demander pardon à Dieu, c'est une chose. Mais rester dans son péché, c'en est une autre. En fait, je ne suis pas sincère, je ne suis pas vrai. Demander pardon à Dieu, ça veut dire je mets une règle dans ma vie. Ça, oui, j'ai fait l'erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde. Mais demander pardon à Dieu puis recommencer, ça sert à quoi? Alors, je termine. Le point commun de ces trois exemples, c'est le regard vers. Vers Christ. C'est d'avoir de l'endurance au-delà des difficultés, de transmettre aux autres ce que Dieu m'a transmis. Ça me responsabilise. Et vous savez que dans ces trois cas, dans ces trois exemples, le militaire, l'athlète et l'agriculteur, il y a encore un autre point commun. C'est sa motivation, son désir. Et dans l'effort, je ne connais pas de chrétiens qui n'ont jamais souffert. Je ne connais pas de chrétiens qui sont un jour se sont engagés avec Dieu en disant wow, « c'est cool de marcher avec Dieu, wow, tout va bien, tout baigne ». Ce n'est pas vrai. Le militaire souffrira. Le militaire souffrira, il sera peut-être même blessé, mais il reviendra. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont des héros, des héros. Je ne parle pas des Rambo, tout ça, qui font des rôles, qui jouent des rôles, qui font les démolisseurs. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle des héros. Des gens qui ont vraiment eu des actes héroïques. C'est dans la tête, dans la souffrance. Il souffrira. L'athlète, ça sera dans sa tête. J'en peux plus, j'arrive plus, je marche plus. J'ai les jambes qui me brûlent. C'est dans la tête. Je vous assure que si vous dites « je veux y aller » parce que mon objectif, c'est Christ et rien que Christ, on ne s'arrêtera pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas mal. Vous aurez les cuisses qui chaufferont, dire « oh, j'en peux plus, j'ai mal aux jambes, oh, de courir. » Oui, c'est vrai. Et puis, quant à l'agriculteur, la persévérance dans la patience. Seigneur, j'attends. Tu vois, j'ai semé, je ne vois rien. J'ai labouré. J'ai mis je crois que c'est la herse en avant pour nettoyer le terrain. Après, j'ai labouré. Après, j'ai passé, je ne sais plus comment on appelle ça, pour niveler la terre. Du labour, eh bien, les niveler. Et après, j'ai semé, Seigneur. Et j'ai passé le rouleau pour écraser la semence dans la terre. Et je ne vois rien. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne voit rien. Mais la semence est en terre. Et quelques jours plus tard, la semence va mourir elle-même, portera du fruit et va germer, va sortir. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, il verra le fruit. Être chrétien, ce n'est pas avoir du fruit, de voir sa prière exaucée tout de suite. Être chrétien, parfois, il faut attendre des semaines, des mois, des années pour voir la réalisation de sa prière. Mais quel bonheur, quelle joie de dire « Seigneur, tu as permis que je voie la réalisation de le pourquoi je te priais pour telle et telle situation. Alors je te bénis pour ce que tu as fait dans ma vie. » Êtes-vous civil ou militaire ? Êtes-vous consommateur de pain ou êtes-vous à la base l'agriculteur ? Êtes-vous un sportif endurant devant votre poste télévisé ? Eh ben, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Si j'étais à sa place. Oui, mais tu n'es pas à sa place. Tu es derrière ton écran. Ou est-ce que vous êtes un sportif ? En disant je veux. Alors que le Seigneur nous bénisse. Jésus, nous voulons te prier et réclamer toute ta grâce. Nous voulons marcher dans tes voies et nous voulons être de véritables chrétiens dans notre vie publique, dans notre vie privée, dans l'intimité de notre cœur. Seigneur, tu nous responsabilises en effet et tu nous rappelles combien il y a des règles pour marcher dans tes voies. Que marcher dans tes voies, eh bien, on ne peut pas faire ce que l'on veut, comme on veut et si un jour on veut ou si un jour on ne veut plus, parce que selon notre humeur. Mais c'est nous engager et avoir le seul objectif, Christ, et d'être de ceux qui savent recevoir la transmission selon la parole et d'être de ceux qui sont capables de transmettre à d'autres qui seront en mesure de pouvoir le vivre aussi et de le rapporter aussi encore à d'autres. Seigneur, fais de nous des agriculteurs. Fais de nous des athlètes, fais de nous des soldats pour Christ. Et nous te bénissons dans ton nom, Jésus. Amen.